Donc, on commence la deuxième table ronde que nous avons appelée questions de recherche, questions sociales. Donc, y a deux coordonnateurs, c'est Philippe Blanchet et moi-même. On a décidé que je commençais, c'est Philippe après. Et ensuite, dans l'ordre, on aura Patricia Lambert, Médéric Gasquet, Noémie Marinier et Laurent Filietaz. Alors, pardon, excusez-moi, je... J'ai pas beaucoup de place, voilà. Donc, pour rapidement ouvrir cette table ronde, je dirais que, selon moi, la sociolinguistique, en tout cas, je ne sais pas pour l'AD, je ne suis pas ADiste, mais en tout cas, la sociolinguistique ne peut pas être une discipline hors sol. D'une façon ou d'une autre, et on va voir de quelle manière, le chercheur se trouve, à minima, je dirais, impliqué dans des questions sociales qui dépassent le strict cadre de la sociolingue ou de l'AD, éventuellement, je ne sais pas. Alors, je ne ferai pas... Mon rôle, c'était de faire le bilan de ces questions dans la revue. Bon, je ne vais pas vraiment faire un bilan exhaustif puisque nous avons publié plus de 900 articles, donc c'est un peu délicat. Mais il m'a semblé, en relisant la collection, j'ai retenu quatre manières différentes d'engagement des chercheurs dans les questions sociales et quelques travaux afférents. Alors, première possibilité, qui comprend énormément d'articles, c'est... Les chercheurs qui se proposent de décrire et de comprendre les situations de plurilinguisme. Alors, ça se dit différemment en 40 ans, bien sûr, hein. Les conflits entre les langues, la minorisation linguistique, afin d'assumer une position critique et éventuellement, pour certains d'entre eux, aller jusqu'à l'aménagement linguistique. Donc ça commence dès 87, on a le dossier Contact des langues, on a Philippe Blanchet sur les langues régionales minoritaires, Pierre Thomas sur l'officialisation du basque, le numéro du Chêne et Canu, mais après j'irai plus vite, hein, sur l'appropriation politique et économique des langues, celui de James Costa sur les enjeux sociaux des mouvements de revitalisation linguistique, l'article de Jean-Michel Géa sur l'enseignement du Corse et les arabophones en Corse. Quand on croise cette problématique et cette implication, elle peut être croisée avec les questions migratoires. Par exemple, bon, là je ne vais pas tout citer, le numéro qu'avaient fait Christine Depré, Bette Collet et Gabriel Varon en 2014 sur les familles plurilingues dans le monde. La deuxième manière d'envisager l'implication des chercheurs en sociolinguistique, c'est... Alors là on va voir que... Ça va un peu. Enfin, c'est une problématique qu'on va voir non pas disparaître, mais devenir très minoritaire. Et c'est très lié à ce que je disais ce matin sur le reflux de la pensée critique dans l'ISHS après la chute du mur de Berlin en 1989. Donc, on a le deuxième, c'est d'écrire la parole des dominés, dénoncer les inégalités linguistiques et sociales. On a eu en 82, alors je le cite parce que pour moi c'est un article extraordinaire, l'article de Auvigny et Monte sur le langage en milieu sous-prolétaire, qui est un article que je vous conseille d'aller lire sur Percé. On a eu, dirigé par Pierre Achard, Pratique langagière vue d'en bas. On a eu deux articles magnifiques de Marc Dery, qui n'est pas là, sur les pratiques langagières des bateliers et sur le rire des dominés pendant les entretiens. Deux articles très importants. Et quelquefois, on va croiser un peu plus tardivement d'ailleurs, cette question de la domination avec des questions de scolarisation. On a par exemple l'article là aussi magnifique de Bilias et Trimaille en 2001 sur le plurilinguisme et l'insertion sociale. On a un article de Don Martin, je vais arrêter de dire les noms hein, parce que c'est chiant, hein, sur les collégiens des Calendretas. On a très bel article sur les enjeux sociaux du bilinguisme. Troisième, et j'ai presque fini de toute façon, troisième manière d'aborder l'implication qui a donné naissance à un certain nombre d'articles, c'est d'écrire le langage et les langues en situation de travail pour éventuellement contribuer à le transformer. Donc on a une visée de transformation sociale. Ce sont des articles ou des dossiers de Boutet-Heller, de Vergely, de Duchesne, de Traverso-Etica. Et enfin, la quatrième possibilité, mais qui finalement est assez minoritaire, j'en ai trouvé que deux exemples, c'est assumer une position d'expertise du chercheur. Donc je dirais que c'est aller au-delà de l'implication, c'est être en position d'expertise. Et on a en 2010 le dossier de Dominique Lagorgette sur la linguistique légale, Forensic Linguistics, où elle assume, Dominique et tout le courant anglophone, la position d'expertise du linguiste dans les cours de justice. Et un un numéro que j'avais coordonné sur les approches statistiques des langues en France, où on allait jusqu'à faire des recommandations aux aménageurs linguistiques sur ces questions.
Merci. Donc, je vais continuer la présentation de la problématique de la table ronde pour aboutir à la deuxième question qu'on a posée aux intervenants intervenantes, en repartant de l'article introductif de ce numéro de la revue qui est signé de Josiane et qui me semble une excellente façon de soulever la problématique du positionnement critique de la sociolinguistique, à la fois de façon historique et actuelle. Elle rappelle, et je fais la même analyse, que la sociolinguistique est née d'un double positionnement critique, un positionnement critique théorique et méthodologique contre ce qu'on peut globalement appeler une linguistique structurale et ses avatars générativistes et apparentés, mais aussi une position de critique sociale, de critique sociopolitique. Et on a rappelé plusieurs fois aujourd'hui l'environnement politique que j'appelle pas moi idéologique, pour moi ça veut pas dire ça, mais de pensée politique, de philosophie politique dans lequel la sociolinguistique est née en France en tout cas. Je crois que ces deux critiques sont liées. Je pense que si on veut élaborer une théorie d'un phénomène social et humain, il faut avoir une théorie du social et de l'humain, et que donc il doit y avoir, il peut pas ne pas y avoir une conception politique du social et de l'humain, c'est-à-dire s'appuyer sur un projet de société. Josiane a aussi dit, je partage cette analyse, que la sociolinguistique, c'est pas seulement l'analyse des aspects sociaux des pratiques linguistiques, mais c'est aussi, comme l'a aussi dit Calvé, l'analyse des communautés sociales, c'est le mot qu'il emploie, je dirais des organisations sociales, à partir de leur versant et leur fonctionnement linguistique. Et du coup, on peut considérer que la sociolinguistique travaille à une critique des fonctionnements de la société et pas seulement à une analyse des phénomènes linguistiques dans cette société-là. À partir des années 90, Josiane vient de le rappeler, on a l'impression qu'il y a un reflux de la pensée doublement critique, mais surtout critique sociopolitique en sociolinguistique. Une des questions que je me pose, c'est est-ce que ça signifie qu'il y aurait eu une avancée de l'hégémonie, en gros, de l'idéologie dominante capitaliste, nationaliste dans les sociétés occidentales, qui aurait même atteint les sociolinguistes, qui du coup, pris dans cette hégémonie, ne mettraient plus en question le système sociétal, et du coup, il y aurait moins de pensée critique. Un exemple, on pourrait voir ça dans la transformation des universités, par exemple en France, en mise en concurrence inégalitaire, etc., comme si on était sur un marché de la connaissance et de la formation. Il reste pendant, parce qu'une idéologie hégémonique n'est jamais totalement hégémonique, il reste des poches de résistance, et donc il reste des gens qui continuent à penser les dominations et les inégalités, à pas les considérer comme naturalisées et inévitables. Et donc il y a toujours eu, Josiane dit, il y a un redéveloppement, en tout cas il y a une forme de continuité accrue de cette fonction de critique sociopolitique. Alors l'une des pierres qui a marqué ça, c'est le livre de Monica Heller pour une sociolinguistique critique, clairement, et puis toute une série de choses qui se sont développées après. Par exemple, ce qu'a beaucoup défendu mon regretté collègue Thierry Bulot dans notre équipe RN2, il disait que notre travail consistait à faire de la militance scientifique, et il pesait ses mots en disant ça. Il faut dire qu'il était, comme moi d'ailleurs, héritier de la sociolinguistique de Marcellesi, qui, comme vous le savez, est marxiste et gramscienne. Du coup, se pose une question, est-ce qu'il n'est pas à nouveau nécessaire de politiser les questions sociolinguistiques, justement pour y déceler les enjeux idéologiques, pour ne pas se faire piéger par les enjeux idéologiques, réinsérer les questions sociolinguistiques dans toutes leurs dimensions politiques? Ça peut paraître paradoxal, mais je pense que c'est une façon de traiter la question. D'où justement cette fameuse deuxième question qu'on a posée à nos intervenants et intervenantes, que je vous lis et que je leur relis. Vu les changements sociaux et politiques contemporains, entre parenthèses, voici un début de liste, néolibéralisme, mondialisation économique, accroissement des inégalités, intensification des flux migratoires, montée des extrêmes droites, virtualisation du réel et développement du numérique, comment voyez-vous le travail futur du chercheur en sociolinguistique et en analyse du discours?
Patricia, c'est à toi.
Alors, je voudrais d'abord commencer par vous remercier pour ces deux questions. Et ensuite, vraiment vous remercier pour l'invitation qui m'a aussi... Alors non seulement honorée, mais beaucoup touchée, parce que je voudrais en profiter pour exprimer ma gratitude à tous ceux qui font vivre cette revue depuis 40 ans, qui m'a beaucoup apporté depuis que je suis entrée dans le domaine de la sociolinguistique il y a un peu moins de temps. Voilà, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le numéro anniversaire aussi. Alors je ne citerai pas de manière précise et systématique toutes les résonances qu'il peut y avoir dans mon propos avec les lectures de différents articles de ce numéro, mais je pense que vous reconnaîtrez des textes qui ont déjà été cités. Alors merci pour ces deux questions, parce que c'est quand même un véritable défi d'essayer d'apporter ne serait-ce que quelques bribes de réponses. Et je vais donc commencer tout de suite par situer mes travaux, en indiquant d'abord qu'ils s'inscrivent dans une perspective sociolinguistique, dont le point de départ est le locuteur plutôt que la langue. Que cette position, cette option est aussi celle pour moi d'une pratique résolument ethnographique, et donc impliquée à minima dans des relations humaines, à maxima dans différentes formes d'intervention ou de collaboration avec des acteurs, et pour aborder des questions qui sont liées au domaine de l'éducation, le terme étant entendu dans son acception la plus large. Cette perspective, elle place donc l'ethnographie au cœur de ma démarche, ethnographie qui fonde mes questionnements sur la parole langagière des dynamiques sociales et qui informe mes analyses sur la complexité des pratiques et des processus sociaux et langagiers. Alors mon intérêt ou mon objectif principal de recherche étant de contribuer à dessiner une image sociolinguistique, fine, complexe, de la population orientée vers la voie professionnelle par le jeu de sélection scolaire et sociale. Donc les objets d'études peuvent fortement varier, allant de l'étude de phénomènes de variation stylistique dans des situations de communication à l'analyse de discours épilinguistiques produits par des adolescents appartenant à cette population, qu'il s'agit donc de mieux connaître sous l'angle sociolinguistique, avec tous les enjeux dans le domaine éducatif portés par ces objectifs. Alors cette dynamique globale de recherche, elle prend son origine au début de ma formation sociolinguistique et en didactique des langues à Grenoble à la fin des années 90, et je continue à la développer aujourd'hui dans une position d'enseignante et de chercheur située à l'intersection des sciences du langage, des sciences sociales et des sciences de l'éducation, puisque j'enseigne dans un département de sciences sociales la sociolinguistique, tout en travaillant avec des linguistes et des didacticiens au sein de mon laboratoire, qui est le laboratoire ICAR. Donc je travaille avec, par exemple, Véronique Traverso au sein du projet qui a été évoqué tout à l'heure. Et en collaborant régulièrement avec des services de l'Institut français de l'éducation, qui, donc une composante de l'École normale supérieure de Lyon, ex-INRP, qui entend se situer à l'interface de la recherche et du monde de l'éducation, en accomplissant des missions qui s'autodésignent comme relevant de l'expertise, de la production de ressources ou encore de la formation. Alors sur ce riche et assez complexe terreau académique, mes activités en matière de recherche placent le langage, les langues et les discours au cœur de problématiques éducatives qui peuvent concerner aussi bien la gestion de la diversité linguistique par les politiques éducatives que le rôle du langage et des langues dans des processus de sélection sociale et scolaire. Et actuellement, mes travaux s'organisent plus précisément au sein de deux grands champs de problématiques. Alors que je vais évoquer dans deux points successifs, le second sera sans doute à peine effleuré, pour tenter, chemin faisant, de poser quelques propositions, quelques questions, quelques éléments de réponse. Donc je ne vais pas traiter la première question puis la deuxième successivement, mais je les traiterai plutôt au fil du propos, comme j'ai commencé à le faire. Alors le premier axe thématique de recherche auquel je participe, il questionne la manière dont des différences linguistiques sont traitées à l'école et les nouveaux défis qui se posent aux politiques linguistiques et éducatives. Par exemple, de quelle façon les systèmes éducatifs intègrent-ils ou non des projets de soutien ou de construction de compétences plurilingues et interactionnelles dans un monde, dans un contexte de mondialisation des échanges, et avec quelle conception sous-jacente de la langue ? Et ce faisant, comment ces institutions contribuent-elles ou non à réduire, à reproduire ou à amplifier des inégalités ? Alors les enjeux de telles questions sont de grande portée pour l'ensemble des élèves et surtout pour ceux les moins avantagés face aux exigences de l'école. La question de la domination linguistique de certains groupes ou d'individus étant indémêlable de la question sociale de la distribution des ressources matérielles et symboliques. Alors cette double question, elle renvoie aussi en France et à celle particulièrement délicate de la compatibilité entre universalisme républicain et reconnaissance publique de la diversité culturelle et linguistique au sein de la société et de son école. Donc, avec des collègues de l'Institut français de l'éducation, on prend la mesure régulièrement de justement du caractère délicat, sensible de ces questions à travers la mise en œuvre d'une des modalités possibles de mise en circulation, de réengagement ou de traduction, de mise en discussion, de conception sur le langage et sur les langues produites depuis plusieurs décennies par la sociolinguistique et plus largement par des linguistiques de la parole. Et cette modalité ad hoc de réengagement de savoir sociolinguistique au-delà de la sphère académique dans laquelle, enfin, où ils ont été produits, repose sur cette opportunité locale, la présence de l'ex-INRP et de l'Institut français de l'éducation, de créer, de constituer un espace collaboratif donc qui date d'il y a presque 10 ans maintenant, créé avec Marie-Odile Mersandos du Centre Alain Savary, où l'on rassemble régulièrement différents types d'acteurs, des enseignants, des cadres intermédiaires d'éducation nationale et des chercheurs issus de différents horizons disciplinaires. Donc dans cet espace, on essaie de réfléchir ou d'inventer des façons de tenir ensemble ces deux bouts, celui d'un travail scolaire sur l'hétérogénéité du langage et des langues et celui de la lutte contre des inégalités scolaires. Et on vérifie très régulièrement que c'est finalement un peu comme avancer sur une ligne de crête où on risque à tout moment de basculer d'un côté ou de l'autre. Pour ce qui concerne le contexte français, jusqu'à aujourd'hui, la sociolinguiste impliquée que je suis considère qu'une approche de type éveil aux langues ou language awareness, en tout cas telle qu'elle a été initialement définie en direction de l'ensemble des élèves, en tenant compte des enjeux de reconnaissance, mais sans pour autant s'y réduire, c'est-à-dire ne confondons pas les problématiques de l'inclusion et celles de l'accès socialement inégal aux ressources scolaires et culturelles, fait partie des voies les mieux à même de tenir cet équilibre sur la ligne de crête, parce qu'elles visent des formes d'émancipation par rapport à certains carcans qui pèsent toujours lourdement sur les conceptions les plus courantes des langues. Et dans le même temps, j'ai bien conscience, et cet espace de travail inter-métier, inter-acteur le montre bien, que ce type de démarche est pris de manière assez emblématique dans des tensions autour de la diversité linguistique et les débats qui ont cours dans différentes sphères sociales, économiques, éducatives et dans celles de la recherche. Et il me semble d'ailleurs que une des actualisations de la contribution de la sociolinguistique à la recherche sur l'éducation langagière ou à la didactique des langues, devrait pouvoir se porter à cet endroit précis pour parvenir à mieux cerner les enjeux de ces débats. Et là, c'est peut-être un premier élément de réponse à la seconde question. Et un deuxième élément, si j'ai le temps, je ne sais pas, deux minutes, un deuxième élément de réponse, ou plutôt de mise en discussion, va résonner avec la conférence de Monica d'une certaine manière, puisque elle concerne plus généralement la contribution ou les contributions de la sociolinguistique à des décloisonnements disciplinaires. Donc bien sûr, un des espaces favorables à ces décloisonnements est la revue Langage et Société. Donc j'ai pris trois exemples contrastés qui me semblent intéressants à réfléchir pour réfléchir à ce qui est en train peut-être de se passer ou pas. Le premier, c'est des jeunes chercheurs qui vont dans le sens d'un engagement solide avec les sciences sociales, par exemple dans l'existence du séminaire doctoral critique sociale du langage, ou encore dans l'initiative plus récente de jeunes chercheurs de Lyon et de Fribourg qui ont créé et animent un séminaire commun sur des questions d'épistémologie pratique fondées sur les approches ethnographiques. Donc des initiatives qui viennent de jeunes chercheurs appuyés, soutenus, voire encouragés par leurs enseignants et ou leurs équipes de recherche, hein. Alors qui peuvent avoir différents motifs, des motifs scientifiques, des motifs de formation à la recherche, aller chercher à se former plus solidement du côté des sciences sociales quand on a été formé en sciences du langage. Des motifs peut-être politiques qui ont été évoqués liés au contexte politique actuel, hein, une volonté de repolitiser la sociolinguistique. Et puis peut-être aussi se munir de ressources qui pourraient favoriser l'accès à des emplois, à des postes, à des positions durables ou précaires, comme c'est de plus en plus souvent le cas dans les postes qui permettent les décloisonnements disciplinaires. Enfin, voilà. Donc je crois que j'ai plus de temps du tout, mais mais donc j'avais deux autres exemples, mais je vais les garder pour après.
Merci. Alors moi je peux pas ne commencer sans ne pas remercier l'invitation qui m'a été faite comme Patricia, parce que je me souviens, effectivement le temps passe, mais quand j'ai une petite main à l'Institut d'études créoles et francophones qui n'existe plus à Aix, que je rangeais la revue Langage et Société entre les bureaux de Calvé de Chaudançon, si on m'avait dit que je participerais à la fête, donc je suis très très heureux et très touché de faire cette fête là. Alors avant toute chose, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Mais sachez que, c'est important que vous le sachiez, que le social est périphérique. C'est ce que m'a dit une collègue hier de mon département, dans une discussion de couloir. Alors elle est sémanticienne, elle travaille en prosodie de manière expérimentale, mais elle m'a dit, tu sais, le social c'est périphérique, ça vient après. Je suis d'accord, je ne savais pas. Sachez, parce que je pense que vous avez longtemps vécu dans l'erreur, mais que le roi François Ier en 1539 a décidé avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts que tous ceux qui vivaient dans son royaume devaient parler français. C'est notre président qui l'a dit, hein, il y a quelques jours lors des journées du patrimoine. Donc vous savez tous que nous parlons la langue de Molière, et la clause Molière est là pour nous le rappeler. Que, comme l'a dit dans un entretien une orthophoniste à une étudiante dont j'ai encadré le mémoire, qu'il n'y a aucun problème de norme en France et que les orthophonistes savent que la norme du français c'est à Tours. Sachez aussi que les Allemands n'ont pas la même constitution au niveau des organes phonatoires, c'est pour ça qu'ils ne prononcent pas les mêmes sons que nous, comme l'a dit ma marchande de fruits et légumes. Et vous savez aussi que certains voudraient mettre les borborygmes africains sur le même plan que la langue française, comme l'a écrit Thierry Desjardins dans Le Figaro il y a quelques années. Alors bien sûr, ces idées reçues sur le langage nous font rire, nous font sourire, mais elles devraient plutôt nous inquiéter sur l'impact que nous avons, puisque nous réfléchissons sur notre impact sur les questions sociales. Et donc j'y reviendrai à la fin pour le coup, mais voilà, au moins vous serez moins ignorants, maintenant vous le savez. Alors, à la question posée, donc, comment résonnent des termes comme expertise, intervention, implication, commande, demande d'application dans mes propres travaux. Alors, application, non. Donc, déjà, je l'évacue celui-là. Demande, oui et non. Alors, je vais dire un premier mot sur l'expertise. Donc, je vais d'abord passer en revue ces quelques termes pour voir comment ça résonne et comment je me situe par rapport à ça. Au niveau de l'expertise, on va dire d'une forme de demande. Alors, j'ai eu l'occasion d'avoir des demandes pour deux expositions. Donc là, on a ici une exposition tout à l'heure. Et on m'a demandé, par exemple, c'est le MUCEM qui m'a dit, tiens, au fait, combien il y a de langues parlées à Marseille ? Et je me suis dit, la première réponse, vous savez, qu'on fait, vous savez, c'est très complexe, mais qu'est-ce que c'est que parler une langue ? Mais qu'est-ce que c'est qu'être un locuteur ? Il y a des mélanges, des contacts, voilà. Et puis après, je me suis dit, mais quand même, ils veulent faire une expo, ils veulent donner des informations aux gens. Moi, je les ai quelque part, ces informations, ou en tout cas, je devrais les avoir en tant que sociolinguiste à l'Université d'Aix-Marseille. Comment je fais ? Donc, on a fait un petit projet de recherche, on a essayé d'y répondre partiellement. Mais donc, ça fait partie un petit peu des. Merci. C'était pour l'expo après Babel traduire. Ouais. Voilà. Donc, voilà la première demande d'expertise qui nous invite à sortir de notre cadre et de notre confort, j'allais dire intellectuel, où on dit c'est compliqué, les choses sont complexes, etc. C'est vrai, sauf que parfois on a besoin de donner des réponses simples. Et ça nous permet de tisser des liens entre science et art, par exemple, qui sont importants. Et moi je suis très sensible, mais comme plusieurs d'entre vous ici, à tout ce qui est visibilité et vulgarisation, ça me paraît une clé fondamentale. Autre exemple pour montrer à quel point peut-être que quand on nous sollicite, on peut apporter quelque chose. Avec Philippe Blanchet, nous avons participé à la rédaction du dictionnaire du Marseillais de l'Académie de Marseille. Donc, en deux mots, l'Académie de Marseille, elle est sœur de l'Académie française, mais elle est à Marseille. Donc c'est la même institution, mais avec un côté un peu plus provincial, on va dire. Et ils ont voulu faire, les académiciens donc de Marseille, un dictionnaire du Marseillais. Et je me rappelle de la première réunion, ils ont dit « Nous allons appeler ça le parler de nos grands-mères ». Et j'ai dit, mais vous êtes sûr, vous voulez faire un dictionnaire du Marseillais ? J'ai dit, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, des jeunes, de différents horizons, différents milieux sociaux qui emploient des mots. Donc avec Philippe, on a essayé d'apporter nos contributions scientifiques, lexicographiques, pour essayer de faire un objet à la fois patrimonial, parce que c'est normal que des gens aient envie d'avoir un objet qui soit un patrimoine, mais aussi qui ne soit pas complètement tourné vers quelque chose qui n'existe plus alors que ça existe encore. Voilà. Sur l'implication, je passerai assez vite parce que bon, Patricia en a un petit peu parlé. Je dirais, j'ai rien d'original, de neuf à dire dans notre domaine, dans la sociolinguistique, dans la linguistique de terrain, notamment dans notre sociolinguistique. On est tous plus, on se dit impliqués avec l'empathie qu'on a avec nos interlocuteurs, qui sont plus que des sujets ou des locuteurs, qui deviennent parfois des amis. Voilà, donc là, j'ai rien de spécial à ajouter. Mais par rapport au retour du politique et du militantisme, moi, je voudrais dire que. Il paraît important, Calvé dit toujours, on peut être à la fois linguiste et citoyen. Pour moi, c'est très bien. Évidemment, on est un chercheur, on n'est pas un pur esprit qui vole au-dessus des idées et des combats politiques. Mais le danger pour moi, c'est peut-être de se servir de notre science pour alimenter un discours militant. Or, il me semble que notre travail, c'est d'être des scientifiques, et à travers ce travail-là, justement, de servir des discours militants. Que l'on peut prononcer nous-mêmes. Je vais donner un exemple. Je viens de coordonner un numéro de histoire épistémologie langage sur les langues en danger. Mais on a évité avec mes collègues de crier halte à la mort des langues et autres discours thanatophobes, comme dirait Calvé encore une fois, où on pleure sur le sort des langues qui disparaissent. On a essayé de voir comment on pouvait travailler en sociolinguistique et typologie sur qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue théorique. De la même façon avec James Costa, lorsque j'ai travaillé un petit peu avec lui sur les mouvements militants en Provence, on ne s'est pas considéré comme les porte-étendards de mouvements, qu'ils soient occitanistes ou provençalistes, en disant on va faire ça et ça va nous permettre de défendre telle ou telle cause. Ce qui est très délicat parce que quand on est sur ces terrains-là, on vous demande de choisir, on vous demande d'être dans un camp ou dans l'autre. Et quand on dit on est dans aucun camp, vous êtes forcément dans le camp de l'autre quand vous parlez avec l'un. Vous voyez, donc c'est très délicat mais intéressant aussi. Et mes travaux sur le français de Marseille, lorsque je l'ai fait, par exemple, je ne suis pas là pour défendre une variété en disant « Oh, le français de Marseille, c'est super, c'est meilleur, etc. » Ça me paraît... Cyril... Non, c'est pas vrai, Cyril. J'essaie de... Non, je voyais que Cyril hochait la tête comme ça. Non. Par contre, ce qui est important, c'est le rôle qu'on peut prêter. Effectivement, ce que nous faisons parfois nous échappe parce que nous donnons une impression. Et je vais en parler. À propos de la chronique radio que j'anime depuis 1999, donc une chronique de 2 minutes tous les matins sur France Bleu Provence, si vous pouvez l'écouter en podcast, vous n'avez plus aucune excuse. Où c'est de la vulgarisation linguistique et sociolinguistique, et j'essaie chaque jour autour d'un mot, d'une expression, d'un événement. d'expliquer voilà, avec un point de vue sociolinguistique ce que peut être, ce qu'on peut dire avec du français de Marseille. Mais souvent les gens disent ah c'est bien ce que vous faites, vous défendez le vrai parler d'autrefois, vous défendez le vrai français de Marseille, vous me rappelez le parler de ma grand-mère, alors bon je ne l'ai pas connu mais voilà. Donc parfois ce que nous faisons nous échappe, donc il y a de l'interprétation aussi, hein, les limites de l'interprétation, mais il y a aussi un impact qu'on ne maîtrise pas. Moi je prends toujours soin de dire attention ce que je fais, je ne suis pas dans la défense, je ne suis pas dans la défense d'un patrimoine, je décris, j'explique. Mais vous voyez qu'on peut récupérer quelque part aussi ce qu'on fait et très vite le tourner vers la folklorisation. Là aussi, les travaux de vulgarisation sont intéressants mais peuvent être détournés. Avec Philippe, encore une fois, nous avons rédigé Le Marseillais de poche pour les éditions A6000. Ensuite, j'ai eu une commande de First pour Le Marseillais pour les nuls, 6,95€, deuxième édition. Ce qui m'intéressait, c'était de décrire cette variété avec une commande pour le grand public. Donc, il faut que ce soit souriant, il faut que ce soit plaisant, donc d'accord. Mais le risque, c'est évidemment une folklorisation et je ne peux pas y échapper. Cet objet, il est fait pour que des gens s'en amusent d'un côté ou de l'autre. Mais j'ai essayé d'y mettre, et c'est ce que fait Philippe aussi dans ce genre d'ouvrage, le plus de sociolinguistique possible. Voilà. Et donc, la sociolinguistique, elle rentre là où les gens l'attendent pas. Ils ne viennent pas chercher un livre de sociolinguistique, ils viennent chercher un livre un peu rigolo ou sympa à offrir aux touristes, aux amis, etc. Et nous, on essaie d'enquiller, je dirais, un peu de sociolinguistique. Alors, le mot intervention me parle plus. Et les travaux que je mène avec quelques collègues sur les accents, notamment sur la discrimination à l'accent, là, il me semble que ça peut avoir un vrai impact, ça peut être une vraie forme d'intervention, dans la mesure où c'est médiatisé. Et, alors Philippe est le mieux placé encore une fois ici pour parler de la médiatisation, parce que son livre « Combattre la glottophobie » a été très médiatisé, et il me semble que ça c'est important, et que là il y a quelque chose de très concret. Quand on voit qu'aujourd'hui il n'y a plus un journaliste qui fait un papier sur les accents et qui ne va pas appeler Philippe, et quand Philippe n'est pas dispo, on vient me voir, et après il y a Philippe Boulade-Mareuil aussi, donc en ce moment ça tourne à trois un petit peu. Mais ça me paraît important d'être reconnu, dans ce domaine-là en tout cas, comme des experts ou des gens qui ont quelque chose à dire. Alors après, il y a quelque chose d'important, c'est le contrôle des médias, entre guillemets. Ça fait un peu politique ce que je dis, mais j'y reviendrai à la fin. Donc, évidemment, ces notions d'intervention, de tentative d'insuffler du sociolinguistique dans des travaux de vulgarisation, ça me paraît important et ça me paraît quelque chose qui, enfin, ça me parle. Par rapport à cette volonté d'intervenir sur des questions sociales quand on fait de la recherche, puisque le thème de la table ronde, c'est questions de recherche, questions sociales. Il me semble qu'il y a deux problèmes. J'ai encore du temps, Josiane ? 5 minutes. 6. Il me semble qu'il y a deux problèmes. Alors, un problème, quand même, qu'il ne faut pas négliger, c'est que notre bonne parole ou notre bonne volonté, elle se heurte notamment à d'autres courants, d'autres domaines dans les sciences du langage qu'on a évoqués ce matin, qui sont ces courants durs, ces courants de linguistique dure, mais pas simplement au sens où on disait linguistique dure, linguistique molle, mais dure au sens assez violent dans la façon dont ils voudraient réduire à néant la pertinence scientifique de nos objets. On en a parlé un petit peu ce matin. Je vous ai parlé de ma collègue donc, qui m'a dit, mais comme pour m'informer que le social était périphérique, et que, voilà, c'était. Mais j'ai retrouvé tout à l'heure la profession de foi de. C'est public, donc de mon nouveau directeur de laboratoire, qui évoque les laboratoires Parole et Langage, AEX, qui évoque donc les travaux. Alors il dit. Donc il parle de linguistique expérimentale, de sciences cognitives, de neurosciences comme les domaines pionniers, etc. Et c'est très bien, c'est très intéressant. Il dit « Je ne veux pas oublier les travaux qui ont toujours placé les données au cœur de leur démarche. » Parce qu'il dit « Nous, on découvre les données. » Bon, il dit « Il y en a d'autres qui, effectivement, les ont toujours placées au cœur de leur démarche. » Comme par exemple l'analyse conversationnelle, la linguistique de terrain, etc. Ainsi que de larges pans de la linguistique appliquée et de la sociolinguistique. Mais, d'une part, en dépit de leur intérêt, il est difficile de tenir ces travaux pour le courant dominant en linguistique. Bon, voilà. Et d'autre part, il ne développe qu'exceptionnellement une méthodologie quantitative qui constitue, selon moi, une forme d'aboutissement de la démarche empirique. » consistante à proposer des modèles couvrant le mieux possible un jeu de données ou le résultat d'une expérience. Donc vous voyez, quand on ira le voir avec des doctorants en disant ben, « notre doctorant aimerait avoir une bourse pour travailler sur les interactions, une approche qualitative ethnographique, etc. » Vous voyez que quand vous avez un directeur de labo qui vous dit « c'est sympa ce que vous faites, mais en fait vous n'allez pas au bout de la démarche scientifique et vous êtes minoritaire de toute façon, puisqu'il dit « mais vous n'êtes pas dominant », voilà, c'est un petit peu délicat. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Et tout ça, c'est lié aussi au fantasme de la machine, de la technologie, du numérique, du grand corpus. Ce matin, il a bien été dit qu'il ne s'agit pas de s'opposer à ça. Au contraire, et François Perret a très bien dit, il faut s'emparer de ça. Mais ne pas oublier, par exemple, la dimension critique des humanités numériques. Toutes ces choses-là. Mais on voit qu'il y a un rouleau compresseur qui passe. L'autre problème qui vient un peu de nous, c'est la vision, je dirais, binaire, simpliste, parfois, que nous proposons lorsque nous disons « nous voulons intervenir ». Il y aurait les gentils locuteurs face aux méchants dominants. Il y aurait ce qu'on appelle parfois pour dire le plurilinguisme enchanté, vive la diversité, vive les langues, oui d'accord. Les gentils sociolinguistes contre les méchants linguistes qui décrivent des formes, des normes, bon, avec des cibles faciles, l'école, l'académie, le pouvoir. Moi je pense qu'il faut un petit peu faire attention à ça, parce qu'on peut très bien s'auto-satisfaire de ce discours-là, et ben, notamment voilà, des étudiants qui arrivent, qui sont très enthousiastes, qui disent je vais décrire les pratiques langagières, l'insécurité linguistique chez les élèves de ça, 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 et mon travail contribue à une forme d'intervention. Et on va leur dire non, parce que ton travail, c'est un mémoire qui est lu par un prof ou deux et qui n'aura pas d'impact. Et beaucoup de nos articles, vous le savez, n'ont pas d'impact. Même les nôtres que nous publions, nous n'avons plus le temps de lire. Donc nos articles résonnent dans notre petit cercle. Si on ne le fait pas sortir, ça n'a pas de gros impact. Donc les bonnes intentions, les déclarations de bonnes intentions, ça ne fait pas l'intervention pour moi. C'est bien de le dire, mais il faut aller au-delà. Il faut avoir des actes. Alors, ça m'amène à la question 2, qui sera plus rapide, hein, par rapport à quel est le travail du le futur du chercheur en sociolinguistique en analyse de discours. Moi, il me semble que le chercheur, on l'a déjà dit tout à l'heure, ne peut pas rester simplement chercheur, ou en tout cas, ce n'est pas dans sa position de chercheur qu'il va réussir à intervenir. Là, nous pensons parfois, lorsque nous présentons dans un colloque quelque chose, changer les choses, mais c'est quand on fait des actions sur le terrain, tu viens d'en parler, quand on intervient avec des institutions, des réseaux, des associations, que là, on arrive à vraiment changer. Donc, ça veut dire quelles actions concrètes, vers qui, avec quel partenaire, quels moyens pour l'action, pour qui et pour quel impact. Et tout ça, ça se travaille, ça se prépare, ça doit faire partie des nouvelles compétences que l'on fait. Alors vous savez que maintenant, quand on fait les dépôts de demandes de subventions, les ANR ou les fonds européens, on nous demande toujours quel est l'impact, hein, quel va être l'impact. Alors évidemment, on ne peut pas le prévoir, mais au lieu de faire semblant qu'il y aura un impact large, il faut plutôt essayer de s'emparer de ça, d'en faire un agenda. Je reviens à ces idées reçues qui circulent. Et une minute, je vais terminer dans une minute. Ce livre qui est sorti récemment, Sociolinguistic Research, Application and Impact, il y a un article de Walt Wolfram qui est intéressant, qui parle donc de comment lui, il a mis en valeur ses travaux aux États-Unis. Et il dit, quand on parle de diversité langagière et de variation, il y a toujours une sorte de tolérance sociale pour la désinformation. C'est-à-dire que bon, on tolère que le président de la République dise des âneries, que des orthophonistes, des profs disent des âneries sur le langage. Et c'est Sylvain Auroux qui disait dans La raison, le langage et les normes qu'il est inconcevable que aujourd'hui des gens disent des âneries comme ça sur le langage en disant mais oui telle langue est plus belle que l'autre. Ils disent, c'est comme si des gens vous disaient encore la terre est plate alors que bon il y a quand même des savoirs de base qui ont circulé dans la société. Bon, nous avons du mal à faire passer des savoirs de base, c'est notre responsabilité. Alors je dirais, l'une des clés, l'une des solutions que je vois pour l'avenir, le travail du chercheur en sociolinguistique, c'est de former, dans un contexte universitaire qui est celui de la professionnalisation, et pour moi l'université n'est pas là que pour, heureusement, former à des métiers, c'est pas le discours du MEDEF, mais de s'emparer là aussi de la question et de dire, non pas simplement on va faire la recherche, on va intervenir, mais de dire, mais bien sûr que nous avons besoin dans ce monde, et c'est la parenthèse dont tu as parlé, ce monde de tension, nous avons besoin plus que jamais de gens qui décrivent le langage, les langues, les discours, qu'ils soient numériques ou pas, les discours politiques, le plurilinguisme, les discours à l'école. Donc on a besoin de ça. Donc faisons des métiers, moi c'est un petit peu ce vers quoi j'aimerais travailler, faisons des métiers de sociolinguistique, d'analyse de discours, essayons de montrer que ce que nous faisons, les gens que nous formons vont trouver des métiers qui ne sont pas forcément à la recherche. Parce que on sait que c'est une impasse là aussi de dire que toute une classe de master va arriver en... Il n'y a pas assez de bourses, il n'y a pas... Mais essayons de trouver des voies pour que des gens avec des masters en sociolinguistique, en analyse de discours, puissent travailler dans des institutions publiques ou privées et fassent passer auprès de la société ces idées, ces théories, ces concepts, parce qu'il me semble que les sociétés en ont besoin et qu'en tant que chercheur seul, on n'y arrivera pas. Voilà.
Oui, alors je vais moi aussi remercier les organisateurs et les organisatrices, même si je suis un peu embêtée parce que j'ai pas d'anecdote à raconter sur mon rapport à langage et société. En tant que jeune chercheuse, voilà, j'ai pas encore d'anecdote, j'en aurai peut-être plus tard. Et de dire que c'était une question assez difficile pour moi, celle de comment je situais mes travaux dans le paradigme expertise, intervention, implication, commande, demande, application, puisque moi j'ai travaillé notamment en thèse sur des personnes qui voulaient pas qu'on travaille sur elles. Donc je me situe dans aucun de ces paradigmes, donc je développe un peu cela, hein. J'ai fait ma thèse donc, en analyse du discours, je crois que je suis la seule discursiviste ici, sur les personnes intersexes, c'est-à-dire qui naissent et vivent avec un sexe qui ne correspond pas aux standards des sexes mâles et femelles, je ne développe pas plus. Et c'est une population qui est très vulnérable et qui subit des situations violentes. notamment de la part des institutions médicales et juridiques, et qui, par ailleurs, dans la lignée des minorités sexuelles et de genre, est extrêmement méfiante sur les travaux académiques qui peuvent être réalisés sur elle. Donc personne ne m'a demandé de travailler là-dessus, et même si mon travail a plutôt été bien reçu, il y a toujours eu de la méfiance de la part des personnes concernées, vis-à-vis du fait d'être pris comme objet de recherche en fait, par une personne non intersexe et par une chercheuse. Il y a des raisons assez objectives à ça, hein, par ailleurs. Enfin, justifie, on va dire. Mais donc, c'est pas une méfiance qui me semble originale, mais ça m'interdit de dire que je travaille pour les personnes intersexes, si je reprends le problème de l'implication du chercheur ou de la chercheuse, et de savoir si on fait de la recherche sur, pour ou avec les groupes sociaux. Et en fait, je voudrais soulever une étrangeté, puisque par ailleurs, il y avait une vraie demande autour de cette question de l'intersexuation, alors à la fois par les institutions médicales, par les institutions juridiques et par les personnes concernées elles-mêmes, sur la question des dénominations en fait, puisque tout le monde dit que les questions de nomination, de dénomination sont absolument cruciales, milieu de beaucoup autour de ça, il y a des colloques de médecins autour des dénominations des variations du sexe, donc qui était l'objet de ce sur quoi j'ai travaillé, mais il n'y a absolument aucune lisibilité de l'expertise linguistique et pas du tout de demande. Donc voilà, c'était pour dire que ça rend les choses assez compliquées aussi, puisque moi je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle, par rapport à une demande ou à un besoin social, il n'y a jamais eu d'adresse en fait, qui m'a été faite. Donc je me situe un peu de l'autre côté. Et si j'en reviens à la question de comment je me suis positionnée face à ça, donc à ces besoins, à tant de demandes, mais qui n'étaient pas formulées, j'aurais tendance à répondre, et ce n'était pas dans la liste des mots qui étaient suggérés, mais c'est toujours la même chose autour de la question de l'implication militante ou pas du chercheur ou de la chercheuse, dans la position d'allié. C'est ce qui me semble mieux convenir, c'est-à-dire de soutenir les luttes, de faire ma recherche en essayant de pas nuire aux personnes concernées, ce qui n'est pas forcément évident, ce qui n'était pas forcément évident dans ce cas-là. Bon, ça c'est un paradigme éthique évidemment assez classique. Mais aussi de considérer que faire une recherche sur les discours de l'intersexuation ne me plaçait pas en position de surplomb par rapport aux personnes intersexes, c'est notamment en ce qui concerne leur agenda politique. Donc l'idée c'était de dire que mon travail pouvait être un lieu d'appui pour les personnes concernées dans leurs revendications, et que donc les personnes puissent se saisir de mes travaux pour montrer les discriminations qu'elles et elles subissent. Et donc d'accepter de devenir un outil de lutte malgré moi et d'être dessaisie de mes travaux par celles et ceux sur qui j'ai précisément travaillé, avec notamment des utilisations de mon travail que j'avais pas anticipé et que surtout qui me semblait être contraire à ce que j'avais fait ou voulu dire ou ce genre de choses. Donc tout ça pour moi, ce serait une modalité du travailler avec, avec l'idée que malgré une certaine dissymétrie des positions sociales, il y aurait l'idée d'une convergence de certains intérêts sans paternalisme. C'est-à-dire que mes recherches en tant que telles ne peuvent pas faire grand-chose pour les personnes concernées, à savoir les intersexes dans ce cas, mais elles peuvent être appropriées dans le cadre des mobilisations des personnes concernées elles-mêmes dans des dynamiques agentives. Ça c'était pour un peu parler de ce que je faisais, mais si j'essaye de généraliser un peu plus en tant que donc chercheuse dans le champ des recherches en genre, dans l'analyse du discours et en genre, il me semble que y a une sorte de tension qui s'effectue, en tout cas un double mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une importance très grande qui est apportée alors par les militants et militantes féministes LGBTIQ, etc. Une importance donc très grande apportée au langage, un vrai intérêt pour ce type d'analyse, puisque c'est des militantismes qui se concentrent beaucoup sur l'idée que les mots sont importants, que le discours construit les réalités sociales, les représentations du genre, de la sexualité. Mais en même temps, la plupart des sollicitations qui sont adressées, je ne parle pas que pour moi, là, mais aussi pour les collègues qui travaillent en genre et langage, qui nous sont adressés, c'est souvent pour des questions de langue, en fait. C'est-à-dire des questions d'écriture inclusive, de débinarisation de la langue. Moi, c'est souvent pour ça que je suis sollicitée, alors que, bon, je suis pas du tout spécialiste de grammaire, mais voilà. Ou alors, je suis sollicitée pour mon expertise sur les questions sur la question du sexe, donc de la matérialité sexuée, mais à ce moment-là, les personnes s'en fichent du discours. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, là où je ressens donc une vraie demande en ce qui concerne donc ce champ du genre et des sexualités, c'est sur la question des langues avec une approche assez normative finalement. C'est-à-dire que on est beaucoup sollicité pour fournir des solutions en ce qui concerne le langage inclusif, le langage non binaire, une vraie grosse demande de manuels, de règles, de grammaire. Donc on nous demande en fait des outils de normativisation. Et c'est difficile de discuter, de faire entendre que c'est plus compliqué que ça, de faire comprendre la position non normative de certaines, enfin de la linguistique et de l'analyse du discours, et la question des variétés de langues, la question des variétés de stratégies discursives plutôt. Bon, et que les questions de l'écriture inclusive, dont on parle pas mal ces temps-ci, c'est qu'une approche parmi d'autres des questions de genre et langage. Donc, pour résumer sur cette première question, je sais pas. Il me reste 5 minutes, d'accord, mais j'aurai appuyé sur la suite. C'est l'idée qu'il y a un certain nombre de tendances contradictoires en ce qui concerne les intérêts des uns et les intérêts des autres, la demande des uns, la demande des autres, la posture des uns, la posture des autres. Voilà. Et alors ensuite, en ce qui concerne la deuxième question, en ce qui concerne ce qu'on pourrait, comment on voit le travail futur du chercheur ou de la chercheuse en analyse du discours au vu des changements sociaux et politiques contemporains. Je vais surtout parler de l'analyse du discours telle qu'il me semble qu'elle se pratique en France, donc ce qui relève de l'analyse du discours dite française, pour ce que ça veut dire. Je sais que c'est compliqué, hein. Et je vais traiter ça un peu dans la continuité de ce que disait François Perrea ce matin, sous l'angle du numérique. Puisqu'il me semble qu'au sein d'une analyse du discours en France, qui me semble quand même relativement unifiée, et avec un bagage assez identifiable de concepts, méthodes et théories, le numérique pose plusieurs enjeux. Beaucoup ont été soulevés ce matin, mais aussi des enjeux politiques, en fait, en ce qui concerne notamment celui de la variété des discours disponibles et des objets sur lesquels on peut travailler, et qui ouvre plusieurs perspectives. Alors, déjà, la possibilité de travailler, c'est pas pour revenir à la question des corpus, mais c'est pour parce que les corpus posent eux-mêmes des questions politiques. C'est-à-dire que ça donne la possibilité de travailler sur des discours qui sont plus les discours forcément traditionnels de l'analyse du discours, les discours médiatiques et les discours politiques, mais surtout sur des discours qui sont produits par des locuteurs et des locutrices beaucoup plus variés dans leur positionnement social, notamment sur les axes de sexe, classe, race, et notamment des personnes très vulnérables et marginalisées. Ce qui me semble pourrait mettre ou remettre ces questions au centre de la recherche. Et je pense notamment au colloque « Donner la parole aux sans-voix » qui aura lieu à Créteil l'an prochain. Mais ça donne aussi la possibilité de travailler sur des objets, des thèmes. Alors on a parlé des animaux, des machines ce matin, qui me semble qu'ils étaient des thèmes assez inaccessibles, en tout cas moins traitables, aussi parce qu'il y avait des discours qui étaient moins accessibles. Et notamment, moi je pense que j'aurais pas pu faire une thèse sur le sexe, mais donc vraiment le sexe donc en tant que matérialité corporelle, auparavant. Ça me semble pouvoir donner lieu à des perspectives imbriquées. Un travail donc analyse du discours sur des personnes, sur des discours de personnes dont la parole n'était pas entendue en ce qui se concerne les minorités de sexe, classe, race, et qui n'était pas possible d'entendre, en considérant qu'on assiste à un certain bouleversement de l'ordre du discours, si on peut le dire comme ça. Et un travail autour de nouveaux objets qui jusqu'à présent pouvaient être difficiles d'accès parce que tabous ou dont les discours étaient cachés. Je parle de ce qui m'intéresse, donc le rapport au corps, à la sexualité, à l'intime, à la violence, par exemple. Ce qui amène donc une tension, mais dont on a déjà parlé, donc je passe assez rapidement pour pouvoir après conclure. Il me reste combien de temps ?
3 minutes.
3 minutes, c'est bien. À peu près. 3-4, d'accord. Quand même. Donc une tension, mais qui a déjà été soulevée entre une appréhension classique grâce aux méthodes et concepts traditionnels de l'analyse du discours, donc où on ne change pas les outils et méthodes, ou alors de partir des objets de recherche mais qui ne sont pas forcément a priori langagiers, ou en tout cas traités par l'analyse des discours. Je crois que Dominique Magnot parlait du sport tout à l'heure, ce qui me semblait extrêmement intéressant. Ce qui demande d'appréhender ces objets depuis des perspectives pluridisciplinaires, interdisciplinaires, qui demandent des compétences et savoirs qui dépassent parfois de loin le champ disciplinaire et qu'il faut quand même le dire, ne sont pas forcément toujours bien vus, notamment pour les jeunes chercheurs et chercheuses. Et je voudrais conclure aussi sur une idée par rapport à la question des enjeux et des positionnements, sur le fait que, il me semble que, en tout cas en ce qui concerne le travail futur du chercheur ou de la chercheuse en analyse du discours, c'est aussi une question de construction de posture face aux objets, méthodes et théories qui sont mobilisés. C'est-à-dire que il y a de plus en plus, il me semble, une injonction à se situer socialement et à exhiber son point de vue par rapport aux objets sur lesquels on travaille. C'est vraiment le cas spécialement dans le cas des recherches en genre. Et avec une remise en question très grande de l'objectivité du chercheur ou de la chercheuse. Et ce qui me semble pouvoir être traité autour de la nécessité d'expliciter donc les perspectives partielles des recherches, l'ancrage social et corporel du chercheur ou de la chercheuse, sa légitimité à traiter tel ou tel sujet, autour des questions de remise en question, on en a parlé tout à l'heure, de la soi-disant neutralité, objectivité des chercheurs et des chercheuses, ce qui invite à construire des objectivités fortes depuis des positions situées pour reprendre, et pour remettre Donna Haraway dans la discussion, puisque il était déjà ce matin à côté du cyborg, mais là sur la question des savoirs situés. Et ça me semble être une perspective intéressante pour l'analyse du discours qui voudrait se laisser interpeller ou réinterpeller par des problématiques sociales et politiques. Avec le risque, alors je reprends ça à Rastier, de plus savoir si on fait une analyse politique du discours ou une analyse du discours politique. Voilà, c'était juste. Je voulais finir. Oui, non, je vais m'arrêter là, je pense.
Voilà. Voilà, bonjour à tous. C'est donc à moi qu'il incombe de clore cette table ronde à l'heure où je vois vos programmes s'agiter devant vous. Rassurez-vous, c'est bientôt terminé. Je voulais bien à mon tour, mais c'est pas un rituel de politesse, c'est vraiment le dire du fond du cœur, remercier beaucoup Josiane pour son invitation et remercier peut-être plus généralement l'ensemble des éditeurs de la revue Langage et Société, passés, actuels et futurs, pour leur rôle très engagé et aussi leur redire l'importance de cette revue dans la communauté. En tout cas, c'est ma profonde conviction. Je vais vous parler sur ce registre de l'implication de la recherche et des rapports avec les questions sociales d'un domaine dont on n'a pas encore du tout parlé aujourd'hui, qui est le domaine de la formation professionnelle initiale, puisque c'est dans ce domaine que depuis quelques années j'ai eu la chance de conduire mes recherches avec l'équipe Interaction et Formation à l'Université de Genève, où donc on s'est intéressé depuis quelques années à la formation des apprentis, donc la formation des mécaniciens d'automobiles, la formation des éducatrices éducateurs de l'enfance, la formation en alternance des techniciens en radiologie médicale. On a fait un certain nombre de travaux dans différents types de métiers. Donc on s'est intéressé à des jeunes qui, au terme de leur scolarité obligatoire, vont s'engager dans l'apprentissage d'un métier. On parle d'alternance, on parle d'apprentissage. Et ce qui m'intéressait, c'est que finalement, ce domaine empirique, ce champ social, n'a pas fait l'objet d'abondantes recherches dans le champ langage et société. En tout cas, dans l'inventaire que tu nous dresses, c'est un domaine qui semble avoir fait l'objet de peu d'attention, peut-être aussi parce qu'il me semble se situer un peu à l'intersection de deux domaines qui, eux, semblent assez dominants, celui de l'éducation scolaire, l'école, et celui du travail. Et ce qui est intéressant avec la formation professionnelle initiale, c'est que c'est plus tout à fait l'éducation scolaire, c'est pas encore tout à fait le travail, mais c'est un peu des deux. Donc c'est un espèce d'espace intermédiaire, peut-être un point aveugle de notre champ, et c'est un peu de ces problématiques en lien avec la formation professionnelle que je voulais terminer cette table ronde pour essayer de vous montrer qu'elle pose des questions pertinentes sur la question de l'intervention, de l'implication. Et puis qu'elle pose peut-être aussi des questions singulières pour notre discipline. Alors, dans ce contexte-là, ce que j'ai prévu dans le petit quart d'heure qu'il me reste, c'est d'essayer de répondre à 4 questions. Mais rassurez-vous, je répondrai aussi aux 2 qui sont formulées dans le symposium. Première question, c'est quelles sont les questions sociales qui se posent dans le champ de la formation professionnelle initiale et auxquelles on devrait être vigilant, me semble-t-il. Deuxième, c'est en quoi ces questions ont-elles trait à la question du langage, finalement? Comment est-ce que le langage rejoint finalement certaines de ces questions sociales? Troisième question, qu'est-ce que l'analyse du discours ou l'analyse de l'interaction, on va dire la sociolinguistique dans un sens très général, peut apporter comme ressource pour aborder ces questions? Et puis, dernier aspect que j'aimerais aborder, c'est aussi en retour, qu'est-ce que produit sur notre discipline ou sur les outils de l'analyse du discours et de l'interaction, la confrontation à ces questions sociales dans le champ de la formation professionnelle initiale? Alors très rapidement sur la première question, quelles sont les grandes questions qui traversent le champ de la formation professionnelle initiale, les questions sociales, puisque c'est ça l'objet de cette table ronde. Pour moi, il y en a 4 que je vais aborder très rapidement, c'est pas le cœur de ce que j'aimerais vous présenter ici. Une première question qui se pose dans le champ de la formation professionnelle initiale, et là j'ai conscience que c'est éminemment contextuel, bien sûr que la formation professionnelle initiale ne se pose pas dans les mêmes termes en Suisse, en France, j'ai conscience de ces différences-là, mais il me semble néanmoins que c'est des questions qui peuvent présenter une certaine transversalité. Première question, c'est la question des publics. Donc les jeunes qui entrent dans la formation professionnelle initiale ne sont pas n'importe quels jeunes, ce sont souvent des jeunes qui ont un parcours scolaire spécifique, qui n'ont pas nécessairement fait le choix d'entrer dans la formation professionnelle initiale. Et donc se pose pour les acteurs sociaux cette question de comment est-ce qu'on peut diversifier les publics de la formation professionnelle initiale, éviter les stratifications sociales qui sont à l'œuvre dans ce domaine. Une deuxième question sociale qui me semble extrêmement importante, c'est celle de la reconnaissance des acteurs de la formation professionnelle initiale. C'est un domaine qui souvent fait l'objet d'un déficit de visibilité. Les formateurs de la formation professionnelle initiale sont souvent moins reconnus que les enseignants, sont souvent moins visibles socialement, et leur activité réelle est souvent également méconnue. Donc là aussi se pose la question, comment est-ce qu'on peut mieux connaître et mieux reconnaître l'activité et les compétences des acteurs de la formation professionnelle. Troisième question, c'est celle de la qualité de la formation. Je ne sais pas la situation en France, mais en Suisse, la formation professionnelle initiale produit aussi beaucoup d'échecs, produit aussi beaucoup de trajectoires qui ne sont pas linéaires, produit beaucoup d'abandons. Et donc se pose aussi la question de comprendre comment est-ce qu'on peut proposer à ces jeunes des parcours peut-être plus cohérent et plus harmonieux. Et enfin, bien sûr, la question de la formation professionnelle pose aussi des questions d'ingénierie pédagogique. Comment est-ce qu'on peut construire des cursus de formation qui sont cohérents dans des environnements qui sont traversés par de multiples institutions, de multiples lieux de formation, les écoles, les entreprises? Comment est-ce qu'on peut transmettre des savoirs qui soient intégrés dans un ensemble extrêmement émietté de pratiques et de lieux? Donc c'était juste pour poser un peu le champ pratique qui est celui dans lequel je conduis mes recherches et mes travaux depuis quelques années. Et vous dire maintenant, pour répondre à la deuxième question, que le champ de la formation professionnelle initiale concerne, à mon sens, très fortement la question du langage, en tout cas dans deux dimensions ou dans deux points de vue. En premier lieu, je pense que c'est important de considérer que le langage ou l'usage du langage constitue un objet de la formation. Pas souvent un objet explicite, mais en tout cas un objet souvent tacite, mais qui est au cœur aussi des apprentissages professionnels. Devenir un professionnel dans un métier particulier, c'est pas seulement apprendre des aptitudes techniques, c'est aussi accéder à des manières de dire et d'écrire, des manières de faire avec le langage. Et c'est des choses qui ont été quand même bien documentées maintenant depuis de nombreuses années autour de l'apprentissage de certaines manières de parler, de certains genres du discours oral liés à certains contextes professionnels. Mais ce qui me semblait important de rappeler ici, c'est que l'usage du langage n'est pas seulement un objet d'apprentissage pour ceux qui entrent dans le métier, mais c'est aussi le moyen d'apprendre. C'est aussi la ressource qui permet d'accéder à ces ressources et d'entrer dans le métier. C'est le cas des pratiques d'écriture, bien sûr. Vous connaissez bien sûr l'importance de la réflexivité, de cet engouement aussi qu'on a pour les écritures réflexives dans les parcours de formation. C'est vrai des pratiques de lecture. Je pense que les travaux de Patricia Lambert sur l'usage de l'écrit dans les ateliers, dans la formation des mécaniciens d'automobile est un très bel exemple de ça. C'est pas parce qu'on apprend la mécanique qu'on n'est pas confronté à des besoins de lecture dans son parcours de formation. Et c'est bien sûr vrai aussi des interactions verbales et non-verbales. On sait que pour accéder à des opportunités de formation dans les entreprises dans lesquelles on est immergé, il faut aussi apprendre à décoder des manières d'interagir et des ressources qui sont liées à l'environnement de travail. Donc le deuxième point que je voulais aborder, c'est que même si a priori on pourrait se dire que la formation professionnelle initiale n'est pas une affaire de linguiste, les problématiques qu'elle rencontre ont fortement trait à la question du langage, à la fois comme un objet au cœur de la formation, mais aussi comme un moyen d'accéder aux opportunités de formation. Alors, troisième question, comment est-ce que je me suis emparé des outils de la linguistique, du discours et de l'interaction pour, en quelque sorte, répondre à quelques questions que j'ai identifiées dans le champ de la formation professionnelle initiale. En quelque sorte, comment, quelles ont été pour moi les ressources d'une certaine sociolinguistique pour aborder ces questions et m'impliquer dans ce domaine. Alors, je vais prendre juste trois exemples pour illustrer cette partie de mon propos. Je dirais que les outils d'une certaine linguistique de l'interaction m'ont été très utiles pour comprendre les parcours peut-être parfois peu linéaires et chaotiques de certains jeunes dans les expériences de formation. On a dans la formation professionnelle souvent une vision très individualiste ou déficitaire. Genre, ce jeune n'y arrive pas parce qu'il a tel parcours scolaire ou parce qu'il n'est pas motivé. Donc, en quelque sorte, on place la responsabilité sur l'individu. Quand on voit comment ces jeunes, en quelque sorte, sont amenés à interagir dans les différents lieux dans lesquels prend place leur formation, on voit aussi qu'il y a un très grand nombre d'implicites dans la manière d'accéder à l'information, dans la manière de produire les interactions avec des enseignants, des formateurs dans différents contextes. Donc on voit aussi qu'il y a tout un curriculum caché lié à la manière aussi de se comporter dans le quotidien de leurs interactions verbales. Et là, je trouve que la sociolinguistique peut apporter vraiment un éclairage très intéressant parce qu'elle place en quelque sorte la difficulté ou les obstacles de l'intégration sociale et professionnelle sur des processus beaucoup plus collectifs et accomplis collectivement que sur le déficit d'une personne ou de son parcours antérieur. Un deuxième aspect qui, moi, m'a beaucoup intéressé dans ces quelques années d'expérience dans ce domaine, c'est la manière dont certaines ressources de la sociolinguistique peuvent nous amener à repenser les rapports entre le savoir et le langage. Dans le champ de la formation ou de l'éducation en général, on a parfois une conception domine que les savoirs sont à verbaliser. On est dans une logique de transposition de ces savoirs, en quelque sorte. Le langage est utilisé comme un véhicule pour transmettre des contenus de savoirs qui sont performés à l'adresse des apprenants. Et je crois que la sociolinguistique nous apprend que le langage est aussi un outil d'accomplissement de l'activité, c'est un outil de configuration de la participation aux interactions. Et que ce faisant, c'est aussi un outil qui permet non pas de transmettre des savoirs, mais d'inférer des savoirs à partir des logiques de participation à des interactions. Et je trouve que cette perspective, en quelque sorte, qui considère le langage pas seulement comme un véhicule du savoir, mais comme un outil pour aménager les conditions de l'interaction, est un outil extrêmement précieux pour penser les conditions dans lesquelles des apprenants accède à des savoirs dans des situations informelles et pas dans des situations scolaires. Et puis dernier point, avant d'arriver vers ma conclusion, puisque je pense qu'il me reste 5 minutes, parfait. Le troisième point dans lequel je pense que la sociolinguistique, dans sa diversité, peut nous apporter des éléments extrêmement intéressants dans le champ de la formation professionnelle initiale, c'est cette question des compétences, qui, comme vous le savez, est un concept extrêmement prégnant et présent dans le champ de la formation professionnelle, mais qui est souvent réduit à des logiques de référentiel, à des logiques de prescription de l'activité. Ici, je pense qu'une perspective langagière sur la question des compétences, enfin, au-delà même de l'ouverture qu'elle a conduite entre les compétences linguistiques et les compétences de communication, nous amène à penser la question des compétences dans une perspective beaucoup plus incarnée dans l'action, située et aussi collectivement distribuée dans les processus d'interaction. Donc voilà, c'était pour vous dire en quelque sorte à quel point les préoccupations des linguistes sur la question à la fois des curriculums cachés, sur la question du rapport au savoir ou sur la question des compétences peuvent être, à mon sens, des ressources particulièrement intéressantes pour rejoindre certaines préoccupations dans le champ de la formation professionnelle. Alors pour terminer, ce qu'il me semblait important de dire également, c'est en quoi cette expérience de recherche et d'implication dans le champ de la formation professionnelle a aussi, à mon sens, un retour, un effet retour sur la discipline elle-même et sur les outils mêmes que nous utilisons en tant que sociolinguistes au sens bien sûr large du terme. Première chose que je voulais dire à ce propos, c'est que, on en a déjà parlé un peu ce matin, un des effets retours, c'est à mon sens l'interrogation qui doit être faite sur notre appareillage conceptuel, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de concepts comme celui d'activité, de participation, de signification, de savoir, de compétences qui me semblent à même de traverser les frontières disciplinaires et qui ne sont plus nécessairement l'apanage d'une discipline, qu'elles soient les sciences de l'éducation, les sciences de la formation, les sciences du travail ou les sciences du langage. Donc on a travaillé à identifier ces concepts frontières qui nous permettent, pas forcément de parler un langage commun, mais de problématiser des notions qui peuvent nous permettre d'avoir des formes d'articulation et d'interface. Deuxième effet retour sur le champ disciplinaire, c'est la question des méthodes d'investigation. Et à nouveau, on en a parlé ce matin. Je pense que une linguistique de la formation professionnelle est confrontée à des questions méthodologiques qui ne sont pas nouvelles dans le champ, mais qui me semblent particulièrement importantes. C'est la question, d'une part, de la multimodalité. On en a parlé ce matin. Les pratiques de formation sont incarnées dans une multitude de ressources sémiotiques. On ne peut pas les réduire à des composantes verbales. Et se pose bien sûr aussi la question de l'échelle temporelle. C'est aussi une question qui a été brièvement abordée ce matin. Se poser la question de la formation, c'est se poser aussi la question de la transformation dans le temps, et c'est questionner nos unités d'analyse et dépasser peut-être aussi les micro-séquences, les penser aussi en articulation avec des temporalités plus longues. Alors, dernier point, puisque je pense que mon temps va être terminé, ce qui me semble important de dire ici par rapport à la question du paradigme de l'expertise, c'était la première des questions que vous nous posiez, comment est-ce qu'on se situe par rapport à la question du paradigme de l'expertise, de l'application, de l'implication. Ce qui me semblait intéressant de dire, c'est que le champ de la formation professionnelle offre aussi aux linguistes des opportunités de penser son intervention dans la sphère sociale, pas seulement sur le registre de l'expertise, pas seulement sur le registre de la restitution, mais sur le registre de la formation elle-même. C'est-à-dire que nous avons beaucoup travaillé, pas seulement sur les pratiques de formation, mais aussi avec des formateurs et des enseignants dans le cadre de leur propre dispositif de formation. C'est-à-dire que nous utilisons aussi les pratiques de la formation comme un outil d'action sur ces pratiques. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour terminer. Merci beaucoup.
La parole est à la salle, donc.
Donc Marianne Pavot, Université de Paris 13. C'était juste pour proposer un petit écho à une petite phrase de Médéric. Il ne faut pas oublier qu'en 71, Cuglioli parlait déjà de la fascination du bidule.
La fascination du bidule, à propos de ce qu'on appelle aujourd'hui les talistes, enfin les gens qui font du tal, ou les autres linguistiques formalistes qui utilisent les machines. Ah, pardon, non, pour répondre à...
Bon. Non, mais juste, c'est juste pour répondre à Monica Heller. Antoine Cullioli disait, il ne faut pas tomber dans la fascination du bidule. Et par bidule, il entendait la fascination de la machine, de la technologie, sachant qu'à cette époque-là, c'est le développement de la traduction automatique, enfin c'est le développement, ça avait commencé dans les années 50, en fait, disons, ça monte beaucoup la traduction automatique, l'ensemble des logiciels d'analyse automatique, etc. Et c'est ça qu'il avait, excuse-moi de paraphraser, mais c'est parce que Monica ne comprenait pas.
Mon nom est Jürgen Zies, Université de Caen et groupe ADAR Tel Aviv. J'ai une question qui concerne presque tout le monde. Vous avez parlé de créer un espace collaboratif ou créer un cursus cohérent. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des différences religieuses ou ethniques dans une classe? Par exemple, quand on a une majorité d'élèves musulmans.
Excusez-moi, je veux dire, vous vous adressez à qui? À l'enseignant? À l'inspecteur? Parce que nous, les linguistes, on ne fait pas la classe, enfin, à ma connaissance. Hein. Bon, voilà, donc à qui vous adressez cette question? C'est ça que je ne comprends pas. Mais ils ne font pas classe.
Chercheurs qui s'intéressent à l'éducation, vous avez mis ça en valeur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Quand on laisse de côté les musulmans, quand on a des différences marquées dans le public scolaire, dans la classe, dans l'école, c'est une question simple.
Oui, je crois que c'est une question qui est très emblématique de ce qu'on nous demande très souvent sur le terrain et pour lesquels on n'a pas de réponse parce qu'on est donc assigné à un rôle d'expert sur des questions qui ne sont pas sur lesquelles, exactement sur lesquelles on travaille. Donc on peut engager une discussion sur de quel contexte il s'agit, pourquoi cette question, et peut-être que des bouts d'échanges éclaireront la problématique, mais voilà. Enfin, je crois que...
Je voudrais juste dire une petite chose, c'est que dans une classe, un public est toujours hétérogène et qu'il y a de toute façon, pour répondre à ces questions-là, par exemple, tous les travaux de l'éducation interculturelle depuis les années 80. Donc on est un peu doté quand même de choses comme ça. Voilà.
Il y en a un autre là, voilà.
Non mais Monica. Il y en a qui est parti là.
Il faut dire le nom, c'est ça?
Oui.
Gréco. Alors, non mais en fait, je comprends pas la question. En quoi la présence d'un public, d'un groupe d'étudiants musulmans représenterait-il un problème? Et puis c'est quoi musulman? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas cette question en fait.
Différence ethnique ou religieuse, c'est ça. On a un
public qui est toujours. Quelle est la question?
Oui, Monica. Tiens, attends. Ok, j'y vais.
Non, il faut rester là-dessus, c'est correct, ok. Ben, oui, on est souvent, on nous pose souvent la question. En fait, moi, je travaille beaucoup avec le système scolaire, francophone en l'occurrence, qui est divisé chez nous en Ontario entre le soi-disant public et le soi-disant catholique. Alors, vous pouvez parler de complexité, ça n'a rien à voir avec les élèves. Mais bon, mais justement, je fais de la formation continue. Donc, en fait, moi, on me pose la question, pas forcément dans ces termes, mais grosso modo. Bon, premier élément de réponse, pareil que Philippe, c'est on est tout le temps hétérogène. La question, c'est pourquoi est-ce que certaines formes, pourquoi est-ce qu'on crée certaines différences, pourquoi est-ce qu'on fait un cas de certaines différences, et on en fait. En milieu scolaire. Donc, ça, c'est clair. Et il me semble qu'on a des choses à dire là-dessus. Pour moi, c'est arrivé à poser la question à mes collègues éducateurs, à savoir qu'est-ce que vous voulez faire, vous former quoi, vous former qui, pourquoi est-ce que ça c'est le modèle de citoyenneté que vous privilégiez et quelles sont les formes justement d'inclusion et d'exclusion et de sélection sociale qui en découlent et est-ce que vous êtes correct avec ça? Et si vous n'êtes pas correct avec ça, parce que pour la plupart, on est justement dans un discours de l'éducation comme étant la voie royale vers la citoyenneté, vers la démocratie, vers la réussite scolaire, alors là, on a, les amis, nous avons tous un problème que nous devons tous travailler là-dessus. Grande partie de mon enseignement est consacrée à ça, à comment est-ce qu'on peut être nous-mêmes des éducateurs, des éducatrices réflexifs, réflexives en ce qui concerne nos propres actions de sélection, d'évaluation et comment est-ce qu'on peut lutter, pas uniquement l'enseignant en salle de classe, je trouve qu'on met énormément de poids, énormément de responsabilités sur les épaules des enseignants qui sont en fait, qui ont des marges de manœuvre très limitées. De voir comment la salle de classe est insérée dans un milieu beaucoup plus compliqué. Et puis, donc, de poser des questions, à savoir où sont les points fébriles, où sont les espaces de lutte, de contestation possibles, et comment est-ce qu'on travaille ensemble avec les élèves, avec les parents, avec nous-mêmes, avec le ministère de l'Éducation de l'Ontario, qui a ses propres idées, merci beaucoup. Donc, moi, la réponse serait ça. C'est ça.
Alors, il y a Ruth qui
merci,
a demandé la parole.
Monica.
Oui. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'idée de mentionner une religion est absolument scandaleuse sous prétexte que la France est un pays laïque. Quand les élèves portent un discours, s'ils sont religieux et ils ont reçu à la maison une éducation religieuse, ce qui est parfaitement leur droit, eh bien, quelle qu'elle soit, hein, la religion, et ils vont quand même à l'école laïque, ils ne vont pas nécessairement dans des écoles religieuses, leur discours s'en ressent, leur raisonnement, moi je suis dans l'argumentation, s'en ressent, et je ne vois pas du tout pourquoi il ne nous serait pas loisible de l'étudier comme nous étudions toute autre forme de discours. Donc, nous sommes bien dans le discours. Alors, il arrive, comme c'est arrivé en France, certainement, il arrive que certaines formes de discours, par exemple au moment des attentats ou des élèves qui n'ont pas voulu se lever ou que sais-je, étaient perçues comme voilà, absolument scandaleuses et quelque chose qu'il fallait balayer, au lieu peut-être de se pencher sur ces discours, de les étudier et de les comprendre. Alors, je pense que ce n'est pas un scandale de dire il y a des élèves musulmans, comme d'ailleurs il y a d'autres. Hein. Bon, moi, je viens d'un pays qui n'est pas laïque, donc je peux vous dire que les modes de raisonnement et les conflits que ça provoque sont très importants et que c'est très important de les étudier. Et je ne pense pas qu'il faille balayer ça en disant « mais ça n'a aucun rapport, ça n'a aucune incidence en France ». C'est du discours, c'est des modes de raisonnement, c'est des modes d'interaction, c'est des problèmes qui se posent. Et je pense que nous devons les aborder sereinement, voilà, en tant qu'analyste du discours, sociolinguiste. Et je suis toujours étonnée de la réprobation et de même parfois de l'indignation que ça cause quand on ose poser la question. Voilà, ça c'est pour dire les choses très brutalement, parce que je ne les pense pas aussi brutalement, c'est pour la provocation.
Alors, peut-être...
Attends, il y a une réponse.
Non, peut-être, juste un élément, enfin, en tout cas, ma réaction n'était pas sur la légitimité d'étudier ce type de contexte et ce type de questions posées en tant que question de recherche. J'ai compris que la question qui nous était posée était comment faire en tant qu'enseignant. Comment faites-vous en tant qu'enseignant? Mais justement, et donc j'ai répondu à une question qui était adressée à un praticien, un pédagogue, et je suis pédagogue par ailleurs, mais je ne suis pas à cette table en tant que pédagogue. C'est d'où ma réaction, mais ça n'était pas une réaction d'indignation sur le fait de pouvoir se questionner sur comment justement l'école traite de la différence et quelle est la différence qu'elle pointe, quelle est la différence qu'elle invisibilise et qui du coup n'est plus une différence. Enfin voilà, tout ça effectivement ça fait partie des questions qui nous intéressent.
Tu disais, oui, Johannes Angermüller, tu disais que c'est une question des discours et je suis tout à fait d'accord. En fait, quand on parle de cette question, souvent ce qui se passe, il y a des expériences bien personnelles, bien situées, des échanges entre des individus avec voilà, les problèmes, les contraintes très spécifiques. Et après, voilà, il y a des explications qui sont appliquées à cette situation, à des problèmes, à des souffrances qu'on ressentit peut-être, qui souvent, bien sûr, si on s'en établit dans un discours, donc il y a ce va-et-vient entre des incidents très personnels et des explications très abstraites. Et on va passer des catégories sociales de la situation vers le discours et à l'inverse. Et là, on va souvent des injustices profondes parce que des gens sont tenus responsables comme groupe qui ne sont pas du tout voilà, concernés. Et du coup, il y a une méconnaissance du vrai problème parce qu'en fait, ce qui se passe au niveau voilà, local, que toi tu as ressenti par exemple, est après projeté à voilà, tout un groupe qui n'a rien à voir. En fait, moi personnellement, j'ai des étudiants musulmans dans mes classes depuis très longtemps. Jamais, j'ai eu le moindre problème. Et je suis sûr que voilà, les problèmes que tu voilà, évoques sont totalement différents. Et jamais j'aurais l'idée de voir cette différence religieuse derrière. Et du coup, c'est quelque chose qui est très spécifique voilà, pour tous ces discours sur les grands groupes. Et je pense que c'est très important.
On est en train d'un tout petit peu déraper quand même. Par rapport, là, toute la salle est en train de l'effervescence, je la vois. Il faut quand même resserrer sur l'objet de la table ronde, qui était les questions d'implication, expertise, questions sociales, questions de recherche.
Fabienne Lecomte, je voudrais réagir. Moi, je voudrais réagir plutôt pour changer complètement de sujet à l'intervention de Noémie Marinier, parce que elle m'a fait penser à une anecdote ancienne quand elle a parlé d'injonction à justifier ses objets de recherche. Il y a une dizaine d'années, il y a un collègue gentiment dans un colloque le soir à table, il m'a demandé si mon compagnon était africain puisque je faisais de la recherche sur les migrations africaines. Donc avec une amie, on a un peu plaisanté en disant « Dis-moi avec qui tu couches, je te dirai ce que tu cherches ». Mais je crois que cette injonction, et dans ce que vous avez dit, ça m'a vraiment fait tilt. Je crois que cette injonction, elle existe quand les objets de recherche apparaissent complètement minoritaires ou complètement exotiques ou un petit peu nouveaux. Donc voilà, c'était ma contribution un petit peu au débat. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Hein, puisque cette remarque, c'était il y a 10 ans, mais on a toujours un peu, on demande aux gens de se justifier quand ils vont peut-être ouvrir des objets de recherche qui apparaissent un peu étonnants ou incongrus. Voilà.
Oui, non, mais je ne sais pas si je peux ajouter. J'ai l'impression qu'en plus, la justification qui est demandée, elle est double, c'est-à-dire qu'elle est de la part des collègues de la part des enquêtés, en fait. Donc, il y a cette double demande de justification et on ne peut pas faire les mêmes réponses de toute façon. Donc, bon, c'est ce qui engendre des questions de positionnement. Pardon.
Voilà. Oui, bonjour. Patrick Couton. Moi, je suis en dehors du la recherche académique, mais j'ai quand même une filiation puisque auteur éphémère en 1995 d'un article dans Langage et Société, ex-étudiant de Pierre Achard, mais aussi d'André Salem, qui est l'auteur d'un logiciel de lexicométrie. Et à ce titre, j'avais une petite réaction parce qu'il me semblait qu'on parlait de bidule, mais est-ce que...
Est-ce que finalement, quand même, les outils de lexicométrie, pardon, j'ai un chat dans la gorge, ne peuvent pas être utiles à la sociolinguistique et à l'analyse de discours?
Non, pas en temps. Les outils de la lexicométrie et plus largement, non, parce qu'on n'a pas entendu, des analyses quantitatives ne peuvent-ils pas être utiles à la sociolinguistique?
Ce que je veux dire, c'est que j'ai perçu une sorte de fantasme où finalement l'analyste, le sociolinguiste pourrait être remplacé par le machine learning. Et à ce titre-là, du coup, on jetterait tout. On jetterait tous les bidules qui néanmoins pourraient être utiles, peuvent être utiles à mon avis, dans l'analyse comme outil en apportant un point de vue différent sur le corpus.
Donc si je peux réagir, puisque j'ai un peu mentionné ça, effectivement, je pense qu'il y a un danger, et François Perret l'a dit ce matin, qu'il y ait ce remplacement, c'est-à-dire c'est tellement fascinant, on lance un calcul, on obtient des résultats, des courbes, etc., que certains passent déjà à ça directement. Donc le problème n'est pas le bidule qui est fascinant, qui est très utile, et c'est ni l'approche quantitative, ni statistique, ni au contraire, ce sont des outils, voilà, ce sont des outils. Mais l'outil ne doit pas remplacer ni la théorie, ni la recherche, etc. Donc voilà, c'est ça. Et je crois qu'on est dans une fascination de ça, parce que notamment les politiques universitaires, académiques, nous poussent à ça, c'est-à-dire du résultat, du chiffre, de quelque chose qu'on peut... On est dans l'économie du savoir, donc voilà. Nos résultats, je dis, sont plus délicats à donner. Quels sont nos résultats? Quelles sont vos données? Vous voyez, ce genre de choses qui sont délicates pour nous quand on travaille sur de l'interaction, sur de l'ethnographie, quand on ne travaille pas sur des résultats qui sont affichables sur un PowerPoint. Donc, c'est ça la crainte.
Marie-Hélène Ribailly, ça marche? Marie-Hélène Ribailly, moi j'ai juste, c'est une question pour... C'est une question, non mais ça va. C'est une question pour vous, monsieur Gasquet.
Parlez fort, par contre.
Sans micro, sans micro. Non, avec... Non, mais avec... T'inquiète, vous êtes, parlez fort.
Vous parlez dans le micro qui enregistre et ne diffuse pas le son. Voilà.
Très bien. Donc c'est une question pour vous très concrète, monsieur Gasquet. Est-ce que quand on vous demande un dictionnaire marseillais, en tant que scientifique... Vous êtes en mesure de... Est-ce qu'il y a une possibilité de travailler en collaboration? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez faire évoluer la demande en tant que chercheur en disant, d'accord, vous voulez faire un dictionnaire marseillais. Mais moi, en tant que chercheur, je pense que ce que vous me demandez, c'est de la folklorisation, sans le dire de manière aussi brusque. Donc, est-ce qu'on peut faire changer la commande et la faire passer à autre chose qui convient mieux à l'ensemble des partenaires, en fait?
Oui, c'est ce qu'on a fait avec Philippe, c'est qu'on a dit, ok, mais qu'est-ce que le marseillais? Qu'est-ce qu'on appelle? Quelles sont les formes légitimes? Quelles sont les formes considérées comme authentique, mais donc on met en question l'authenticité, donc notamment une introduction, une préface qui permet justement de mettre plein de garde-fous pour ne pas faire croire que le marseillais égale une liste de mots. Donc tout ça, on l'a mis, tout un appareil métalexicographique qui permet justement de changer la commande. C'est pas ce qu'ils voulaient forcément au départ, mais nous on leur a dit le contrat. Si on vous aide avec nos outils, on va y mettre ce qu'on sait faire nous de la sociolinguistique. Donc je pense que c'est un bon... Ouais.
Juste un petit mot, quand même, on est sociolinguiste, on est supposé savoir un petit peu de sociologie, et normalement, quand même, un petit peu, quoi. Et quand même, ce qu'on appelle en sociologie, dans la méthodologie numéro un, l'analyse de la demande, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude de sociologie, les sociologues travaillent toujours sur contrat, hein, bon, il n'y a aucune étude de sociologie qui ne commence pas par analyser la demande. Donc la SNCF vous demande d'analyser comment se font, je ne sais pas, n'importe quoi, enfin le trafic entre le RER et la SNCF, par exemple, hein, c'est un des trucs voilà, classiques, vous allez commencer par l'analyser. Et on l'apprend en sociologie. Hein, ça veut dire, c'est en L3 qu'on apprend ça. On apprend à analyser une demande institutionnelle. Donc il va de soi que la commande, la demande, elle n'est jamais prise comme telle. Elle est analysée par les chercheurs. C'est voilà, c'est vraiment... Il y a des balles qui rigolent. Mais c'est voilà, c'est un peu... Voilà.
Oui.
Tu dis ton nom?
Michel Ozano.
C'est ton enregistrement.
Alors, c'est une question pour Laurent Filietas, parce que j'étais très intéressée notamment par le dernier point que vous avez abordé. Je crois qu'on est un certain nombre aujourd'hui à s'intéresser à la manière dont on peut évoluer sur un terrain dans une position différente de la position d'expert et à développer ce qu'on voudrait être des démarches collaboratives. Et donc, est-ce que c'est à ça que vous vous référez quand vous parlez de penser son intervention sur le terrain, sur le registre de la formation en tenant compte des dispositifs qui sont déjà là. Enfin, j'aimerais bien en fait en savoir un petit peu plus.
Alors, c'est vrai qu'on peut utiliser les dispositifs de formation existants, mais en tout cas, dans mon expérience, on a aussi pu créer nous-mêmes des dispositifs par la formation continue, notamment, dans lesquels on va restituer un certain nombre d'outils ou de manières de voir certaines problématiques à ces publics. Enfin, je vais prendre un exemple. On a eu, par exemple, récemment une demande d'une équipe pédagogique dans un centre d'une crèche en quelque sorte, qui voulait développer en quelque sorte un projet pour mieux former les stagiaires et avoir des pratiques d'accompagnement en quelque sorte qui soient dynamiques et qui soient aussi collectivement assumées. Eh bien, on a travaillé avec ces personnes-là. Alors, bien sûr, s'il fallait analyser la demande et entrer dans cette démarche, mais on les a aussi placés dans une position de devenir aussi des analystes de leurs propres interactions avec les stagiaires. Donc, on leur a appris aussi à constituer leur propre corpus, à les doter d'un certain nombre d'outils d'analyse, pour voir en quelque sorte certaines spécificités de leur travail à partir de quelque chose avec lequel elles étaient peu familières, c'est-à-dire de voir en quelque sorte certains traits fins des interactions. Donc oui, on peut travailler sur des dispositifs qui existent déjà, mais je pense que c'est aussi intéressant de proposer des dispositifs particuliers. Je pense que la formation continue rend ça possible. Et je pense qu'il y a là autour un chantier vraiment important, c'est celui un peu de la manière dont on peut transformer ou transposer nos propres outils et catégories d'analyse pour que ça devienne des ressources pour les professionnels. Et je pense que c'est un domaine dans lequel il y a des pratiques qui émergent. Il n'y a pas encore une communauté qui réfléchit à partager autour de ces pratiques-là, mais je pense que c'est un des chantiers intéressants de la sociolinguistique, de réfléchir à la manière dont ces outils peuvent être aussi transposés, appropriés en formation.
Marie Vénard, j'ai une question sur la diffusion de la parole des linguistes dans les médias, de l'expertise. Parce que je trouve que, enfin, j'ai l'impression que par rapport à d'autres disciplines comme l'histoire ou la sociologie, c'est plus difficile pour les linguistes. Et je crois que l'un de vous tout à l'heure a dit. Un président de la République ne dirait pas la Terre est plate comme il dit à Villers-Cotterêts, etc. Et je me demande pourquoi, en fait. Pourquoi on a autant de mal à montrer que nos savoirs sont des savoirs. Est-ce que c'est parce que les intuitions des locuteurs sont tellement fortes et qu'ils sont experts dans leur langue et qu'ils ont plus de difficultés à se revendiquer experts en histoire, en physique, etc. Voilà, je voulais avoir votre avis sur cette question.
Bon, d'abord, la langue, le langage, c'est l'affaire de tous, donc tout le monde croit avoir un avis, donc ça c'est... Voilà, notre objet, il est partagé par tous et nous sommes juste experts, mais ce n'est pas notre propriété. Et ensuite, la linguistique, les sciences du langage ne sont pas des disciplines scolaires. Donc ça, c'est un problème aussi. On arrive à faire de la linguistique lorsque les gens ont une épaisseur, une triple couche, je dirais, d'idées reçues qui sont parfois malheureusement colportées par l'école. Quand je dis l'école, je dis de manière générale, mais bien sûr qu'heureusement, il y a des enseignants à différents niveaux qui sont notamment formés, mais trop peu. Et c'était l'un des points que je n'ai pas eu le temps de dire, mais il me semble qu'un objectif, c'est que il y a plus de linguistique et de sociolinguistique dans la formation, donc dans les écoles. Hein, bon, ça se fait, l'éveil aux langues, voilà ce genre de choses, mais que ce soit, et notamment dans les SP aussi, les ex-IUFM, où dans de nombreux cas, c'est catastrophique. Et vous avez des gens qui vont se retrouver face à des élèves et qui ont un discours complètement normatif, intégré, qui ne remettent même pas en question, parce qu'à aucun moment de leur parcours, on leur a dit « attention, c'est un peu plus compliqué que ça ». Donc je pense que c'est ça. Et ensuite, comme c'est l'affaire de tous, c'est pas très, on a l'impression que c'est pas scientifique. Tout le monde a n'a pas un avis sur la physique quantique, par exemple. Dans la rue, les gens n'ont pas un avis là-dessus. Donc, un avis sur la langue, c'est facile, tout le monde peut se permettre une opinion. Et notre problème, c'est l'accès aux médias qui, eux, vont chercher à nous faire dire ce qu'on ne veut pas forcément dire. C'est, est-ce qu'il y a un parler jeune ? Donnez-moi quelques expressions. Combien il y a de locuteurs de provençal ? Donc, ce ne sont pas les questions qui nous passionnent, qui nous donnent des questions un peu plus théoriques. Donc là aussi, il faut transformer la chose. C'est pour ça qu'il faut s'approprier. Il faut nous-mêmes ne pas attendre que les journalistes fassent le travail. Il faut que nous-mêmes, dès qu'on les sollicite, on fasse le travail. Un exemple très concret, je demande toujours à un journaliste maintenant, parce qu'on a tous été échaudés par la déformation de nos propos. Donc plutôt que de râler après coup, je dis, si vous voulez, je veux bien relire l'article avant qu'il paraisse pour ne pas qu'il y ait de malentendu. Ce qui permet d'enlever le malentendu. Hein, voilà, ce genre de choses. Donc c'est à nous de nous former. Et quand je disais qu'il fallait former nos étudiants aussi, c'est être formé à produire un discours de vulgarisation, un discours didactique, un discours scientifique aussi, pour le plus grand nombre. Donc faire des conférences en 3 minutes, en 5 minutes, en 10 minutes, ça me paraît important. C'est un chantier aussi.
Je veux bien dire un petit mot aussi là-dessus.
On n'a plus que 5 minutes.
Juste sur cette question, puis après on fait circuler le micro. Je crois qu'il y a un élément supplémentaire, c'est que pour revenir à la thématique de cette table ronde, on a une puissance critique redoutable, parce qu'on peut mettre en question tout l'édifice de la construction imaginée, idéalisée de l'identité nationale. On peut revisiter Villers-Cotterêts et montrer que ça voulait dire exactement le contraire de ce qu'on lui fait dire. On peut montrer que les discours politiques, on peut les déconstruire et montrer à quel point on vous balade en vous disant les choses. Et donc, nous sommes des gens dangereux. Donc, il faut surtout pas qu'on nous donne trop la parole. Faut pas oublier ça aussi.
Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Pascal Delormas, juste rebondir sur ce qui vient d'être dit à propos des SP. J'enseigne depuis une quinzaine d'années en UFM puis SP, et depuis la masterisation, puisque dorénavant les étudiants soutiennent un mémoire de master, il y a systématiquement un travail de réflexivité et de recherche autour d'une question définie au début des deux années. Donc, je ne sais pas de quel SP tu parlais, mais par exemple, en deuxième année, les étudiants à l'SP de Créteil ont une 60 heures d'enseignement autour d'un thème de recherche qu'ils choisissent. Voilà. Donc, ils ne viennent pas démunis en termes d'interrogation sur leur métier.
Je vais avoir le redoutable honneur de clore la journée. Sur ce point précis, moi j'aurais autre chose à dire. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais il y a juste quelque chose qui est... Il faut aussi s'y mettre. Il faut s'y mettre. Je veux dire, il y a ici trois personnes, Philippe, Médéric et moi-même, qui intervenons. Hein. Alors toi, les mots sont importants. Toi sur la radio, moi, Silomag. Voilà, on s'est mis à faire de la vulgarisation. Je veux dire, si les gens s'y mettent pas, nos manières de parler sont quand même un peu confuses et un peu complexes. Donc, on a peut-être des choses à dire, mais elles ne sont pas entendables. Donc, il faut accepter, et je suis désolée de le dire sous la forme il faut, enfin, parce que ça a l'air de donner des sons, mais je pense que quand on se met à parler de manière simple, de choses très compliquées, ça marche. Ça marche. Le blog de Philippe marche merveilleusement bien. L'émission de radio de Médéric marche très très bien. Donc, on peut tout à fait être entendu en dehors de nos cercles académiques. Mais il y a en France une espèce de rapport. D'ailleurs, Cohen a fait de la vulgarisation toute sa vie, Marcel Cohen, pardon, et ça, la vulgarisation a eu de moins en moins c'était de moins en moins bien de faire de la vulgarisation. Je crois qu'il faut revenir là-dessus, et on a des savoirs qui sont absolument transposables, qui sont absolument entendables, qui sont des savoirs critiques et qui peuvent se faire entendre. Donc ça, bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis encore. Voilà, alors moi je tiens à vraiment vous remercier toutes et tous d'avoir supporté cette horrible chaleur dont véritablement je ne suis pas responsable. Voilà. tout le reste, oui, mais pas ça. vous êtes donc attendus dans quelques minutes, 10 minutes en bas, dans le petit hall pour une performance de slammer. Et ensuite, vous êtes cordialement invités au vernissage de l'exposition de Laurence Rosier et de la clôture du colloque par un cocktail, pas Molotov, par un cocktail qui sera normalement très bien.
Alors, j'attrape le micro, non pas pour vous faire un discours, mais pour vous demander d'applaudir Josiane pour cette magnifique organisation, pour tous ceux qui l'ont aidée.